Mondo Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Mondo Féminin. Nathalie Barge avec vous. Au Kenya, une start-up s'est lancée dans la fabrication des produits de haute technologie en formant une main-d'œuvre capable de fabriquer les semi-conducteurs et produits nanotechnologiques. Une technologie qui fait fonctionner notamment les appareils comme les téléphones portables ou les réfrigérateurs. L'entreprise embauche 70% de femmes ingénieures. Un récit de Blanche Sanou, reportage de Mariam Diallo.
Anthony Gitengi est le fondateur de Semiconductor Technology Limited, ou STL, situé à 3 heures de route de Nairobi. Il a apporté le savoir-faire au Kenya depuis les États-Unis, où il a commencé à travailler en 1997 sur les semi-conducteurs, notamment des matériaux qui conduisent l'électricité et sont utilisés dans des milliers de produits. Trouver des travailleurs ayant les compétences nécessaires dans ce domaine était un défi, mais il dit que rencontrer le président de l'Université des sciences et technologies de Dedan Kimathi a changé la donne.
DECUT et STL ont formé un partenariat qui nous a permis d'engager une éducation liée au STEM, de la développer, de l'outiller et de l'orienter vers notre industrie spécifique qui est l'espace des semi-conducteurs et des micropuces. Nous avons donc commencé à former des étudiants et à faire des stages via STL.
STL emploie environ 100 ingénieurs, dont 70% de femmes. Irène Ngetich est une ingénieure électrique avec une formation en télécommunication. Elle a obtenu son diplôme en 2019.
Chez STL, notre objectif ou notre vision est d'être le premier fabricant de puces en Afrique. Juste pour vous donner une idée, une puce est comme le pilote ou le cerveau de tous les systèmes auxquels vous pouvez avoir accès. Elle est généralement intégrée sur une carte de circuit imprimée, mais elle est généralement de très petite taille. Comme vous pouvez le voir ici, c'est juste quelques millimètres logés à l'intérieur et ils contiennent des milliers de transistors.
Les semi-conducteurs sont utilisés dans presque tous les secteurs de l'électronique. Dans l'électronique grand public, par exemple, ils sont utilisés dans les micro-ondes, les réfrigérateurs, les téléphones portables, les ordinateurs portables et les consoles de jeux vidéo. Ngetich dit qu'elle est entrée dans le secteur STEM après avoir lu un article sur une autre femme dans le domaine.
Alors quand je l'ai lu, elle a mentionné que dans sa classe, il n'y avait que deux dames. Et comme j'aime faire des choses stimulantes, ça m'a marqué.
Lorna Muturi est une ingénieure en mécatronique qui obtiendra son diplôme cette année. À tout juste 22 ans, Muturi travaille déjà depuis 2 ans chez STL.
Nous avons besoin que le processus se déroule d'une étape à l'autre. S'il y a une erreur qui se produit, j'entre et je cherche à déterminer ce qui ne va pas dans le travail de code ou dans la machine elle-même. À partir de là, nous pouvons déterminer ce que nous pouvons faire pour rectifier cela.
La société Travail a établi des relations avec d'autres universités au Kenya, comme Strathmore et l'université d'Eldoret, ainsi qu'en Ouganda et au Rwanda.
L'organisation américaine The Gift of Chess a mis en place un atelier au Ghana produisant des pièces d'échecs pour l'autonomisation des femmes et le développement des jeunes. L'organisation utilise les échecs pour créer des emplois et renforcer les communautés à travers le jeu. Ginny Niwa relate un reportage de Nekachil.
Evelyne Nupeta gagne environ $100 par mois en fabriquant des pièces d'échecs dans un atelier de la capitale du Ghana en utilisant la modélisation 3D et une machine d'impression. L'atelier est financé par le groupe d'aide basé à New York, The Gift of Chess, et géré par le groupe local Clean Afrique 64, embauche et forme des jeunes femmes comme Nupeta.
Les échecs m'ont vraiment aidé. Au début, je ne savais pas taper. Maintenant, j'apprends à taper. Je ne savais pas utiliser une imprimante 3D. Maintenant, je sais comment l'utiliser et je peux produire une pièce d'échec et je suis sûre que cela m'aidera dans l'avenir.
La popularité de ce jeu de réflexion stratégique en tant qu'outil de développement communautaire ne cesse de croître en Afrique. The Gift of Chess sponsorise des tournois et a fait don de 1000 jeux d'échecs à des programmes pour les jeunes défavorisés au Ghana, au Kenya et en Ouganda et plus de 2500 au Nigeria. Depuis le début de la production locale cette année au Ghana, l'équipe a envoyé plus de 50 jeux d'échecs dans des écoles et des centres de jeunesse et a appris à jouer à des dizaines de jeunes femmes.
Je pense que ce programme va grandement aider les filles à sortir des sentiers battus. Et comme vous le savez, les échecs sont un jeu de réflexion. Donc, lorsqu'elles s'engagent dans les échecs, elles sont capables d'élargir leur champ de réflexion. Et je pense que cela va avoir un grand impact sur leur éducation et leur milieu social.
L'atelier enseigne également aux jeunes femmes des compétences en informatique et en programmation pour la production.
Oui. As part of our corporate social responsibility.
Nous nous devons, dans le cadre de notre responsabilité sociale d'entreprise, de développer les communautés dans lesquelles nous nous trouvons. Dans chaque communauté où nous allons, nous nous soucions du bien-être des personnes que nous formons. Certaines personnes vivent dans des conditions très difficiles. Donc nous ne leur apprenons pas seulement à jouer aux échecs, nous leur enseignons d'autres compétences de vie pour les aider à prendre confiance en eux et à les préparer à la vie.
Alors que la popularité du jeu d'échecs augmente, le groupe d'aide espère obtenir suffisamment de soutien pour augmenter la production dans les mois à venir.
A perdu une militante des droits des femmes exemplaire, Nana Aïcha Cissé, membre du réseau des femmes leaders africaines, décédée le 8 août 2024 des suites d'une courte maladie. Madame Cissé avait été nommée membre du CNT en décembre 2020 et élue vice-présidente du réseau des femmes parlementaires du Mali par ses pairs. Elle était membre de la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale, précise un communiqué du président du CNT, estimant que son décès constitue une grande perte pour le pays. Madame Cissé avait aussi été coordonnatrice de la plateforme régionale des femmes du G5 Sahel. Plusieurs ONG ont publié des communiqués pour lui rendre hommage. Mama Koité Doumbia, présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali, dresse un portrait de feu Nana Aïcha Cissé.
Nana Aïcha, pendant beaucoup d'années, a milité dans les organisations et associations des femmes au Mali. Elle a été membre de l'association des femmes, sages-femmes et des femmes qui travaillent à côté des médecins pour préparer les séances d'opération d'intervention chirurgicale. Et elle était membre de plusieurs associations de femmes. Elle a été membre de la CAFO pendant longtemps. Nous sommes rentrés ensemble dans ce mouvement des femmes. Elle s'occupait des questions administratives et moi j'étais aux relations internationales, aux relations nationales. On a beaucoup œuvré ensemble. Ensuite, elle a représenté les femmes du Mali dans la CENI, la Commission nationale indépendante pour les élections. Et ensuite, elle a été la présidente de la Marche mondiale des femmes ici et elle était membre du Conseil national de transition. J'ai contribué à sa formation, à son leadership féminin, mais elle a occupé plus de postes de haut niveau dans le mouvement des femmes au Mali, en Afrique et dans le monde. Et elle était membre de FOSCAO, du Forum de la société civile de la CEDEAO. Elle était membre de la Marche mondiale des femmes. Elle était membre du G5 Sahel. Elle était membre de plusieurs associations internationales parce qu'elle avait un engagement très fort, une vision très forte pour promouvoir et protéger les droits des femmes.
Que retenez-vous de ses qualités humaines?
Aïcha était une femme humble, qui n'avait que souvent de sourire pour répondre à certaines questions. C'était une femme très dévouée. Aïcha avait des qualités extraordinaires qu'elle s'est forgée au fil du temps dans le leadership, leadership à plusieurs niveaux, parce que chaque fois qu'on l'a envoyée dans des organisations, elle a tenu à mettre au cœur de tous ces processus les droits des femmes. Comme je l'ai dit, à la CENI, elle s'est battue, elle a beaucoup veillé à la participation effective et efficiente des femmes à travers leur formation, l'apprentissage au vote, etc., etc., dans la publication des résultats, la mobilisation sociale. Elle en a fait parallèlement à ce qu'elle était dans le membre de la commission. Ensuite, elle a beaucoup travaillé à tous les niveaux et son dernier poste au Mali, c'était, elle était membre du Conseil national de transition, mais elle était membre du comité des femmes. Elle était la secrétaire générale du comité des femmes parlementaires du Mali. Aïcha, c'est une femme très calme, très respectueuse, qui gère calmement tout ce qu'on peut avoir comme problème dans les organisations. Il y a une grande crise qui a été créée au Mali au niveau de la CAFO, mais elle n'a jamais levé la voix pour dire quoi que ce soit. Elle a géré de façon calme cette crise.
Vous avez travaillé ensemble. Avez-vous en mémoire des souvenirs à partager ?
Et les membres de mon organisation me sont nés au-delà de toutes ces organisations. Elle me dit, maman, tu sais, il y a un pays qui me chatouille un peu, j'aimerais bien visiter. Ce pays, c'est l'Afrique du Sud. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais c'est loin, ça fait 9 heures de vol à partir d'Abidjan ou Accra. Elle me dit, je veux bien aller. J'ai dit, bon, moi je vais, je suis membre d'un réseau, on travaille beaucoup sur les questions de sécurité humaine. Et si tu veux, moi je t'envoie à une des réunions en tant que membre de mon organisation. Mais il n'y a pas de perdiem là-dedans, parce que beaucoup de femmes courent derrière le pays. Elle me dit, maman, je m'en fous de perdre. Moi, je veux apprendre. Je veux connaître le monde. Je veux découvrir le monde. Je veux partager mes expériences. Je veux savoir les bonnes pratiques pour les transposer dans mon pays. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ah, j'ai dit, ah, là, j'aime des gens comme ça parce que c'est des gens qui viennent sans avoir un penchant matériel. Je l'ai envoyé en Afrique du Sud. Elle est retournée très satisfaite avec son rapport de mission et beaucoup de documents qu'elle a amenés pour notre organisation. Ensuite, je l'ai envoyé, j'étais malade une fois, je l'ai envoyé à Dakar, Africa Jom, qui travaille sur les questions de crise dans le Sahel. Tu dis, bon, Aïcha, je suis invitée, mais je ne veux pas faire tomber cette invitation dans l'eau. Tu vas aller à Dakar. C'est un panel organisé par un réseau d'organisations et c'est sur la crise dans le Sahel. Je dis, je voudrais que la perspective genre, la perspective femme, soit intégrée justement dans ce travail qu'on est en train de faire en Afrique de l'Ouest. Et puisque c'est un collègue Alountine qui m'a invitée, bon, je ne veux pas le décevoir, je vais te donner. Elle est partie. Elle a fait une très bonne communication et l'autre jour, les gens d'Africa Jeune étaient vraiment tristes par rapport à cet événement.
Son entourage a été très surpris de sa mort soudaine, n'est-ce pas?
Aïcha est décédée, la tâche à la main, l'arme à la main. Personne n'a appris qu'Aïcha était malade. Et d'après les explications de son chauffeur, même le matin, elle avait travaillé, elle était en train de travailler sur son ordinateur. Le jeudi matin, après, elle dit qu'elle a un malaise. Bon, on a dit, bon, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. On l'a amenée à la clinique. La clinique dit, oui, ça va, mais il faut l'amener pour la soulager dans un hôpital. Et devant, elle a rendu l'âme devant l'hôpital. Et beaucoup de groupes d'associations sont restés sous le choc. Mais la vie va ainsi. Nous allons continuer à la célébrer, une femme digne, une femme pleine d'abnégation et se sacrifie pour tout. Aïcha, elle avait un petit mot pour tout le monde, pour le repos de son âme.
Mama Koité Doumbia, présidente de la plateforme des femmes leaders du Mali, rendait hommage à la militante des droits des femmes, Nana Aïcha Cissé, qui nous a quittés le 8 août 2024. Les communautés autochtones en Afrique représentent 16% de la population du continent. Ces peuples sont souvent considérés comme les gardiens de la biodiversité de la planète. Leurs systèmes alimentaires ont des niveaux élevés d'autosuffisance. Ils représentent une immense diversité de cultures, traditions, langues et connaissances. Sur la question de leur protection, écoutons Soyata Maïga, ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a notamment dirigé le groupe de travail sur la protection des droits des populations et communautés autochtones.
Il faut leur assurer la participation au processus de prise de décision les concernant. et faire en sorte que leur représentation soit garantie au moins au niveau de l'accès dans les processus locaux, mais également dans les instances de prise de décision au niveau local, parce que c'est ce qui est en relation avec eux, c'est ce qui les affecte. Il faut donc à ce stade-là qu'il y ait une participation, il faut assurer la consultation des populations autochtones dans l'élaboration et dans l'adoption des projets de développement. Pas seulement l'adoption, mais également la mise en œuvre, le suivi, évaluation. Ils sont exclus de toutes ces phases de processus et ils n'ont pas accès aux opportunités. On a vu que dans certaines régions de l'Afrique centrale, ces populations autochtones sont complètement... On les évacue, on les expulse comme des malpropres de leur terre pour des besoins agro-business, industrie extractive, le développement des infrastructures. Donc comment les États peuvent effectivement respecter leurs droits à la terre, en même temps essayer de faire l'équilibre entre leurs droits et les besoins de développement en infrastructure, en industrie extractive et autres. Et lorsqu'il y a des industries extractives qui soient les premiers bénéficiaires des retombées, non seulement par l'emploi, mais également par d'autres services sociaux de base comme les centres de santé, comme les écoles, voilà, autour de ces industries extractives ou ces opportunités de développement. Nous avons accompagné la République du Congo pour l'élaboration de la loi de promotion et de protection des droits des populations autochtones. Il y a même eu un ministère qui s'occupe de leurs droits, de la protection de leurs droits et de leur implication dans les projets, dans les politiques et programmes. Et c'est ce qui devait se faire au niveau des autres États dans lesquels il y a des populations autochtones. Mais il y a encore beaucoup de réticences, il y a beaucoup de réserves des États par rapport à la reconnaissance même de ces populations qui s'auto-identifient comme étant population autochtone.
Un constat de Soyata Maïga, ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ancienne présidente du groupe de travail sur la protection des droits des populations et communautés autochtones. Certains États ont ratifié des conventions internationales reconnaissant les droits des peuples indigènes, car leur mode de vie est souvent menacé par la modernité. Sur ce point, voici un commentaire de la journaliste gabonaise Raissa Sylvana Oyaseko.
La question si la modernité menace les peuples indigènes peut se lire de façon binaire, à la fois comme étant une menace mais aussi des opportunités pour les peuples indigènes. Au Gabon, l'exploitation minière, forestière et agricole, souvent menée par les grandes entreprises, entraîne le plus souvent la destruction des habitats traditionnels et la diminution des ressources dont dépendent les populations indigènes pour leur subsistance. Nous pouvons également observer un phénomène d'acculturation, car avec la pression à l'assimilation culturelle, l'urbanisation et le développement des infrastructures, ces peuples perdent habituellement leur langue et leur mode de vie traditionnel. Il y a aussi ce phénomène de dégradation de l'environnement suite aux pollutions, à la déforestation et au changement climatique, ce qui affecte de façon considérable l'écosystème dont dépendent les peuples indigènes, menaçant ainsi leur sécurité alimentaire et sanitaire. En ce qui concerne le Gabon, les peuples indigènes ont développé des stratégies pour s'adapter au changement et préserver leur culture, telles que la création d'organisations pour défendre leurs droits, la promotion de l'écotourisme ou la mise en place des systèmes de gestion durable des ressources naturelles. C'est dans ce sens que le pays a ratifié plusieurs conventions internationales reconnaissant les droits des peuples indigènes qui constituent un cadre juridique important pour leur protection. Ils ont même un représentant à l'Assemblée nationale.
C'était la journaliste gabonaise Raissa Sylvana Oyaseko, directrice de publication des Échos du Nord.
Entre parenthèses.
Le tourisme est devenu un secteur vital pour certaines économies africaines, notamment les pays du Maghreb, et il tend à se développer en Afrique subsaharienne. L'année écoulée, le continent a accueilli quelque 60 millions de visiteurs. Le Sénégal en reçoit environ 1,5 million par an, dont la majorité proviennent du continent et 23% d'Europe. Pour une cartographie du pays de la Teranga, écoutons Awasso, présidente du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal.
C'est assez diversifié du nord au sud, de l'ouest à l'est, mais les parties les plus visitées, c'est toujours Dakar et c'est la petite côte, les îles du Saloum qui ont depuis 3 ans quand même été boostées par pas mal de promotions, et toujours la Casamance qui reste une des destinations préférées par rapport à son authenticité, à sa culture qui est restée beaucoup plus intacte, et aussi l'est du Sénégal, une destination qui monte de plus en plus parce qu'on visite minorités comme les pays Bassari, les pays Bédik, sur les hauteurs des collines du Témon, des contrefonds de Fouta Diallo.
Est-ce que vous pourriez nous parler des principaux défis pour développer encore plus le tourisme dans votre pays?
On est confronté à un problème d'investissement hôtelier parce qu'on n'a pas assez d'hôtels pour pouvoir accueillir les grands événements. Et souvent, nous, on nous demande souvent dans les cotations d'accueillir des grandes conférences de 2 000, 3 000 personnes, mais malheureusement, on n'a pas assez d'hôtels. Donc, pour vous donner juste un petit exemple, en termes de réceptifs entre Dakar et Sali, la zone la plus touristique, on tourne autour de moins de 800 établissements. Et on a très peu de 4-5 étoiles. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour se positionner sur le tourisme d'affaires, sur ce que nous appelons le MICE, tout ce qui est Meeting, Incentive, Convention et Exhibition. Donc on a construit des infrastructures de dernière génération en termes de capacité pour accueillir les grandes conférences. On a développé les routes, on a développé les moyens de transport, mais c'est la capacité hôtelière qui fait défaut pour accueillir les grands.
À travers le collectif des acteurs du tourisme au Sénégal, vous entreprenez plusieurs initiatives. Vous essayez de chercher des solutions pour valoriser l'offre touristique du Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous parler de certaines de ces initiatives ?
Notre objectif principal, c'est revaloriser l'offre touristique et la diversifier. Parce que bon, c'est vrai que le Sénégal a été longtemps connu comme une destination balnéaire, mais il y a le tourisme d'affaires qui monte en flèche, il y a le tourisme écologique, il y a l'écotourisme, il y a la pêche, la découverte des produits de niche. On a pas mal de choses, des programmes thématiques. Et maintenant, il faudrait que les acteurs soient mis à niveau afin qu'on puisse au moins avoir des offres visibles, diversifiées. Et ça passe par le renforcement de capacités. On fait des éducours pour nos acteurs pour qu'ils connaissent mieux le terrain, qu'ils puissent voir chaque année les produits qui sont créés, des hôtels qui ont été rénovés, donc ils ne sont plus aux normes, pour qu'on puisse avoir une offre qualifiée.
Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique, des soutiens pour que les communautés développent, même au niveau local, le tourisme?
Depuis quelques années, il y a une volonté politique qui a été affichée, donc avec des instruments d'accompagnement pour les entreprises. On a mis en place le crédit hôtelier et touristique. Il y a certains acteurs qui en ont bénéficié, donc les agences de voyage, les campements, les hôteliers. On a aussi un autre programme pour les toutes petites structures, des structures d'incubation pour pouvoir accompagner les toutes petites entreprises et tout ça en termes de prestataires touristiques, mais il reste beaucoup à faire. Parce que le tourisme, c'est un secteur tellement transversal. Et quand ça marche, tous les autres pans de l'économie marchent.
C'était Awasso, présidente du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal. Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.